I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Alors, le DCU, où on en était?
Eux-mêmes se demandent où ils en sont. Voilà,
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certainement doit avoir un léger fond masochiste, sinon pourquoi nous acharnerions-nous à continuer à aller voir des films de super-héros, hein? Expliquez-moi si ça n'était la conscience professionnelle d'airain qui nous caractérise. Il y a fort à parier que nous aurions passé notre tour avec Justice League. Seulement voilà, non seulement il faut bien aborder de front l'actu ciné, mais en plus il y a au fond de nous bien caché une petite lueur d'espoir qui se dit que peut-être un jour reviendra le temps où on savait faire des films grand public, grand spectacle avec des idées, du fond, des histoires, de l'ambition, que tout n'est pas perdu, qu'on n'est finalement jamais à l'abri d'une bonne surprise. Alors on y est allé. Dans quel état sommes-nous revenus? La réponse tout de suite avec le trio de justiciers pas du tout masqués de la critique ici présente. Daniel Andriev, salut Daniel.
Banzai.
Alexandre Arvaux, salut Alex.
Bonsoir.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et je salue le public qui nous accompagne ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné épisode 108 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Justice League, dont de Zack Snyder et un peu de Joss Whedon, ce dernier ayant dû reprendre le film après que le premier ait dû passer la main pour régler un drame familial. Justice League, donc, reprend à peu près les choses là où le douloureux Batman v Superman les avait laissés. Superman est mort, c'est la merde, une menace extraterrestre plane sur la Terre. Le terrible Steppenwolf veut la conquérir et Bruce Wayne, toujours incarné par Ben Affleck, décide de rassembler tous les héros qu'il peut pour empêcher la catastrophe annoncée. Wonder Woman, qui est toujours joué par Gal Gadot, mais aussi Aquaman, c'est Jason Momoa, Flash joué par Ezra Miller et Cyborg incarné par Ray Fisher. Autour de ce petit monde gravite toujours le valet de Wayne Alfred, Jeremy Irons, la journaliste Lois Lane, Amy Adams ou encore le commissaire Gordon que joue J.K. Simmons, et ça dure deux heures.
Oh, awesome! That's a bad signal, that's your... Oh, sorry. That's your signal, that means we have to go now.
Yeah, that's what that means.
It's so cool.
Non, c'est pas cool du tout. Évidemment, on va faire du full spoiler pour en causer, même s'il y a peu d'enjeux, tant l'intrigue est mince. Pour ma part, moi j'ai trouvé que le film était assez bien résumé par la reprise de Come Together des Beatles qui a lieu lors du générique de fin, qui est lourde, artificiellement gonflée et parfaitement inutile. À vous, messieurs, de nous dire ce que vous en avez pensé. Qui veut commencer? Tiens, Stéphane, qui regarde d'ailleurs, pour pas que je lui donne la parole. C'est raté,
c'est surtout un sujet à lumière dans la gueule.
Tu vas arrêter de chouiner.
Chut.
Ça me tient de mauvaise
humeur.
Laisse-moi
parler.
Je te laisse parler.
On vit dans un monde quand même où un film comme Batman v Superman est ouvertement complexe pour les gens. Donc du coup, il faut vraiment simplifier la situation. Et donc arrive Justice League qui simplifie littéralement la situation. C'est-à-dire, il y a un grand méchant. Il y a des box, boîtes mères, je ne sais pas comment ils les appellent. Là, qui ont plein de pouvoirs dedans. Comme ça. Ouais. Voilà.
Non, ils n'ont pas plein de pouvoir à l'intérieur, c'est le pouvoir.
C'est le pouvoir, ils le disent. Voilà. Ça. Et en fait, on ouvre ce pouvoir pour botter le cul du grand méchant. Voilà. On s'unit tous ensemble pour faire ça. Donc là, c'est sûr qu'on comprend tout. Il n'y a pas de problème.
C'est pas très compliqué.
Est-ce que ça reprend vraiment après Batman v Superman? Moi, c'est le problème que j'ai avec le film. C'est-à-dire que toute l'idée de. Enfin, c'est le problème que j'ai. Contrairement à toi, j'attendais quelque chose du film, tu vois, comme tu l'as présenté dans l'intro.
Oui,
t'as baratiné. En gros, ça se termine sur le Batman de Superman se termine sur donc la mort de Superman et Batman qui a quand même passé son temps à juste dire que ce serait une catastrophe en fait si on laissait ce mec agir comme il l'entend. Mais vraiment, hein, il a passé deux heures et demie à s'énerver là-dessus. Et là, il est le premier à dire il faut qu'on ressorte Superman pour sauver la situation. Parce que voilà quoi.
Parce qu'on a nos mères ont le même prénom.
Ouais, alors, ils en parlent plus, du coup.
Mais
ouais,
bon,
ils se sont dit on va pas le rementionner. Bon, voilà. Donc voilà, déjà, problème de cohérence. Ensuite. Alors c'est assez publicisé quand même les reshoots, la situation t'en as un petit peu parlé là dans l'intro, et c'est un autre problème supplémentaire de cohérence pour moi, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, déjà à la base ils vont chercher Zack Snyder pour créer cet univers, c'est quand même un cinéaste qui a un style visuel, une approche de ce genre-là très très spécifique, et ils vont chercher Joss Whedon ensuite pour re-shooter. Alors à l'occurrence c'est Zack Snyder qui l'a recherché, mais pour réécrire le film, mais quand il y a eu son drame familial, il a pas pu réaliser les scènes en question. Mmh. Et c'est donc Joss Whedon qui le fait à sa place, et qui est un autre cinéaste avec un autre style totalement différent, même si les mecs ils abordent plus ou moins les mêmes sujets, quoi. Et du coup bah c'est un film complètement schizo parce que ça se voit. Alors il y a l'histoire, je sabre dans le tas, il y a l'histoire de la moustache de Superman, oui. Voilà, qui est quand même très pratique, moi je trouve, pour voir quelles scènes ont été reshootées, oui. Parce que ça se voit, mais comme le nez comme au milieu d'une figure qui la moustache qui n'est plus là, quoi. Et voilà, en fait, donc il y a cette espèce, encore une fois dans un problème de cohérence, il y a cette espèce de truc où on essaye de te faire croire que le personnage de Superman avait été présenté comme un symbole de justice, d'équité, d'espoir, ce qui est juste mais pas du tout le cas dans Man of Steel et sauf Batman vs Superman.
Il a laissé détruire sa propre ville.
Voilà. Non, mais c'est pas du tout le cas dans ces films-là. Donc là, on essaye de te rattraper le truc en disant ouais, c'est quand même ça Superman. Et ça se sent que c'est Joss Whedon qui essaye de rattraper le train en marche, quoi. Le problème, c'est que ce train en question, on a l'impression qu'il a été hacké, pris en otage et déraillé. Et tu vois ça pendant 2 heures en cours de route, quoi. Donc du coup, c'est assez. Enfin, c'est un gros. Moi, je trouve un gros accident industriel. Je comprends. Enfin, là, les gens parlent déjà de bide en fait avec la sortie du film aux États-Unis et le fait qu'il ait pas encore fait, même pas fait 100 millions au premier week-end, quoi. Et je pense que ça présente pas une lassitude vis-à-vis du genre en soi, hein, puisque à côté de ça il y a Thor qui cartonne, quoi. Mais je pense que ça démontre que oui, enfin
les gens savent pas faire les trucs,
ouais,
en
les
fait.
Gens, mais surtout ils savent pas quoi faire, c'est-à-dire ils savent littéralement pas quoi faire. Donc là les reshoots, ça se sent qu'ils ont essayé de rajouter le comment dire, un peu plus de pouvoir au personnage de Wonder Woman. Et tout ça pour que finalement Superman prenne le relais dans la deuxième partie. Je sais pas, c'est et puis bon, enfin c'est quand même un film à 300 patates qui ressemble à Mortal Kombat 2, quoi. Enfin, littéralement, c'est-à-dire que il y a des plans d'effets spéciaux juste dégueulasses, quoi. Donc pas que la moustache, hein, vraiment voilà. Au-delà de Superman et de ce genre de choses, parce que je pense que des scènes ont été reshootées, enfin, les reshoots ont lieu dans des scènes qui existaient déjà, il y a des espèces de problématiques d'écriture scène par scène, en fait. Par exemple, le combat final, il faut qu'ils te mettent une petite famille de banlieusards russes, tu vois, donc les trois personnages, quatre personnages.
Il faut dire que c'est l'arc le plus intéressant du film, quand même. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir la vie de Yuri et de toute sa famille.
C'est un tropisme, c'est un tropisme personnel. Dostoïevski, Daniel Andreev.
Et avec en fait une écriture de, c'est-à-dire que les mecs avaient dit qu'il y aurait plus d'humour, plus de machin, etc. Encore une fois, quel humour? C'est ça la question en fait qui se pose, parce que, et ça c'est moi mon gros problème avec Joss Whedon de manière générale, et c'est évident encore une fois que ça vient de lui, le Dostoïevski en question, l'espèce de blague à la con là, le moment où en gros Wonder Woman met un lasso autour d'Aquaman, enfin on va être gentil, on va pas parler d'Aquaman, ce gros beauf comment dire, à tatouage, non mais enfin c'est hallucinant,
surfeur,
voilà, on comprend pas trop ce qu'il essaye de faire en fait comme personnage. Il est ni le bretteur fou des dessins animés, il est pas non plus le prince, enfin on comprend pas,
c'est un beauf qui boit de la bière et qui a des tatouages.
On verra ça dans le film James Bond, je pense,
éventuellement. Tu vois, un jour s'ils le font, si voilà,
parce qu'ils savent pas, ils en sont au quatrième réalisateur, non, ou c'est pour Flash qu'ils en sont,
et le truc c'est que oui, il y a cette histoire de retcon avec Flash aussi, ils veulent le mettre en place avec Flashpoint, mais le truc c'est que voilà, il y a cette espèce de tentative de rentrer au chausse-pied des scènes d'humour, donc la scène du lasso où en gros d'un seul coup il passe pour une petite mauviette, quoi. Et c'est ça le problème en fait, c'est pas les punchlines le problème, c'est vraiment la façon dont on les intègre en fait dans le récit. Un personnage comme Aquaman, pour moi il n'existe littéralement pas en fait dans le film.
Il n'y a même pas d'eau en fait, c'est ça qui est le grand problème pour Aquaman.
Il a une seule dans l'eau au début, et le truc c'est qu'en fait il accepte finalement d'aider les gens quand finalement on attaque son pays. C'est quand même encore un héros, tu vois, un petit peu égocentrique, quoi. Et le type, là, 3 actes héroïques à la con, on se fout de sa gueule parce qu'il apporte une fourchette au combat, hein, tu vois. Et quand tu regardes les bandes annonces qui datent d'avant les reshoots, c'est pas les mêmes punchlines, tu vois. Ouais. C'est ça qui est, donc c'est assez facile de voir ces choses là. Et du coup en fait, se foutre de la gueule des persos avant même qu'ils aient pu démontrer un quelconque acte héroïque, C'est du jeu du Joss Whedon tout craché, c'est-à-dire un mec qui se tire une balle dans le pied alors qu'il est persuadé de créer une mythologie ou de servir une mythologie. Et voilà, enfin la scène où t'as Superman qui lui dit ah, je savais que tu m'avais pas ressuscité parce que pour mes beaux yeux parce que tu me détestes en fait ou je sais pas quoi. Et l'autre il fait tu vois. Et quand tu compares ce plan avec Batman qui est tout hésitant comme ça, tout penaud là, qui sait pas quoi répondre comme dans une espèce de screwball comédie des années 40, tu vois, alors qu'à côté de ça c'est ça de Batman, de Batman vs Superman. C'est, enfin, niveau cohérence, c'est au chou, quoi, aux fraises complet. Donc, accident industriel total, et puis, pas fun, pas spectaculaire. Donc, tout ce que les mecs essayent de faire, pour moi, ça passe complètement à côté.
Stéphane vient de parler des premières promos. Il faut savoir que c'est vrai que c'est un film qui a été présenté en long et en large via une première bande-annonce qui était hyper longue, qui faisait presque 3 minutes, dévoilée pendant le Comic-Con 2016. Donc c'était bien avant la tragédie familiale de Zack Snyder. Donc il y avait déjà énormément de scènes que lui-même avait touchées, sans l'ombre d'un Whedon au tableau. Et il y avait déjà quand même beaucoup de vannes dedans. Il y avait déjà des vannes qui sont d'ailleurs dans le cut final. Hein, le Flash qui dit « j'ai besoin des copains », son super-pouvoir c'est quoi de Batman, bah, je suis super riche. Enfin, ouais, y avait déjà dans ces premières images promotionnelles dévoilées une orientation beaucoup plus légère, beaucoup plus comique que le très sombre Batman vs Superman. Donc, on peut pas non plus, même si je défendrai pas le travail de Joss Whedon sur le film parce que je pense que il était avec une matière première qui était difficilement améliorable, je pense.
De merde, hein, parce qu'il a fait ça cet été.
Oui, et un planning.
Moi, je pense que c'est lui le clodo avec le panneau I Try au début, en fait.
Oui, c'est possible. Ouais. Mais tu sais qu'en plus, je pense que vraiment lui, il doit s'en vouloir parce que je pense qu'il a perdu. On n'en parle pas trop, mais je crois qu'il va sans doute perdre le job de réaliser Batgirl suite à ça. Et surtout, il a fait preuve du. Il a peut-être pas été aussi suicidaire que le mec qui avait fait Fantastic Four là, Josh Trank, qui s'était limite excusé du film le jour de sa sortie sur Twitter, mais il a quand même dévoilé, tu vois, en likant des tweets hyper négatifs sur le film, en notamment qui critiquait à juste titre son vilain, qui est le pire vilain de tous les super-héros. Tout studio confondu, même les vilains de Thor 2, par exemple. Le vilain là, de Steppenwolf, c'est quand même un super acteur anglais, Tyrann Hinds, qui le double. Voix, ouais. Mais il est d'une laideur visuelle incroyable, il n'a aucune consistance narrative. Enfin, c'est un échec à tout point de vue.
Alors, il est pas mal en tant que personnage de dessin animé, c'est-à-dire il arrive et dit oui, ah, je veux tuer les gens, je veux transformer. Alors, si tu le regardes en termes de premier degré, si tu regardes en adaptation des Maîtres de l'Univers, voilà, en 2017, c'est pas mal, mais c'est très limité. Pour moi, le principal problème du film, et j'en reviens au plaisir, c'est-à-dire que d'abord, il n'y a aucune once de plaisir à regarder ça, et le fait qu'il y ait les deux réalisateurs, c'est comme si tu avais pris un excitant juste avant, t'as pris du Guronzan pour rester éveillé, mais t'es un peu trop excité. Alors tu prends un petit...
Tu prends
un peu l'Exomil, du coup t'es un peu patraque. Alors après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des corticoïdes pour t'exciter, du coup tu redeviens malade, alors tu reprends un autre calmant derrière, et du coup...
Pour les Parisiens, ils parlent de coke et de MD. Hein.
Voilà. C'est ça. Ouais. Et tu obtiens une espèce de film en état de stase, c'est-à-dire c'est ni drôle ni excitant. T'attends la scène suivante, la scène avec les Amazones est nullissime. Elle est scandaleuse. On enchaîne scène nulle après scène nulle, et du coup ça devient comme un très très mauvais Marvel, c'est-à-dire qu'est-ce qui a sauvé là-dedans? Pas grand chose. Wonder Woman, on s'excuse presque pour elle parce qu'elle a tous les plans, alors qu'elle était traitée justement avec ils essayaient de faire justement le traiter avec dignité dans son propre film. Ici, on a que des plans contre-plongés, pas très sympathiques pour elle. Enfin, typiquement Snyder, quoi. Ouais. Et du coup, on a une espèce de film amorphe. C'est vraiment un film amorphe, et tu peux pas le recommander à qui que ce soit, quoi. C'est nul. Alors, la seule, s'il y a une valeur positive à trouver, c'est que pour les enfants, maintenant, ça ressemble plus à un cimetière. C'est-à-dire, BVS, tu pouvais pas le montrer à un gamin. Tu le montrerais pas à ton gamin de 10 ans.
Non.
Bah là, ça reste à peu près montrable, mais il y a tellement mieux à lui montrer, quoi. Si t'as pas montré Goonies à 10 ans, vas-y, quoi.
Moi, il y a un truc qui m'a le plus... des trucs qui m'a visuellement le plus choqué dedans, même s'il y a beaucoup beaucoup de choses très très laides dans le film, hein, ça manque pas, c'est Flash. Flash, ils l'ont introduit via une scène pourrie incompréhensible dans Batman vs Superman, mais ils ont donc depuis quand même et pas mal d'années.
Il passe un tout petit peu dans Suicide Squad si tu te souviens.
Ah c'est vrai. Ouais, il y a une petite scène. Micro scène. T'as raison. Donc ça fait déjà deux films avant celui-là dans lequel il est apparu, et on sait que Flash doit apparaître dans ce film-là depuis longtemps. Donc les mecs qui bossent aux effets spéciaux, au design, etc., ça fait quand même du temps. Ils ont eu du temps pour travailler ce personnage-là. Le problème, c'est que c'est d'une laideur sans nom. Toutes les scènes où il court, ils ont essayé de rajouter des... On dirait les effets spéciaux qui sont préprogrammés quand t'as Adobe Premiere, même la version gratuite. C'est quand tu rajoutais un petit éclair comme ça, là. Franchement, ça ressemble à ça. La série des années 90, qui avait d'ailleurs déjà Daniel Elfman en générique, avec le mec... bref. La série des années 90 était limite presque plus convaincante, alors que c'était plus des petits accélérés, puis des effets de flou. Le problème, c'est qu'ils ont eu en plus la concurrence de Vif Argent, Quicksilver, oui. Dans deux films en plus, puisque oui. Il est apparu et dans Avengers 2 et dans les X-Men de Bryan Singer. Alors, les X-Men de Bryan Singer, c'est les deux scènes qui volent les films, avec ces effets de ralenti, matrixien, délirant, très drôle. Mais même dans Avengers 2, qui est quand même un film assez laid au demeurant, et
avec déjà bien que Joss Whedon, c'est une ville proto-russe.
Exactement, donc ça, c'est la Whedonite aiguë de ce genre de film. Pourtant, Whedon, il devait quand même être entouré par des techniciens un poil moins blaireaux que ceux qui ont bossé sur ce film-là. Parce que j'ai revu, il y a un montage dans YouTube qui est très pratique, c'est que les scènes où il court. Il y a des gens qui sont obsédés par ça, je pense. Donc, que les scènes où Quicksilver court. Et les effets spéciaux, sans être d'une révolution absolue, ont un peu de gueule, que ce soit dans un plan large, que ce soit en mouvement. Bref, là, il n'y a pas un plan avec Flash dans le film, sauf ceux où il est démasqué, où il raconte des vannes et en plan fixe. Il n'y a pas un plan d'action, j'ai trouvé, qui ne foutait pas la honte.
Alors, par contre, des plans qui font de la honte, il y en a beaucoup, en fait.
Oui.
Et que ça soit du plus anecdotique au plus la scène d'action, enfin, la scène d'action, on dirait Soul Calibur, mais version PlayStation 1, tu vois, vraiment Soul Edge, donc, tu vois. Vraiment, c'est vraiment pour les spécialistes. Et le méchant, en plus, avec ses cornes inversées, du coup, ça donne vraiment un petit côté boss de fin de niveau très, très moche. Mais,
Mortal Kombat 2, ce que disait Stéphane.
Mortal Kombat 2, que je respecte plus, à ce niveau-là.
Genre, j'adore Mortal Kombat 2. C'est un très grand film. C'est un très grand non-film, en fait.
Mais c'est un grand film de jeu de baston. Voilà
mais c'est un très grand non-film. Voilà, c'est un film qui est sorti, c'était la copie de travail, hein, ouais. Ils l'ont dit ouvertement. Hein. Donc le truc, c'est que. Et là, je pense que c'est un peu le même problème. C'est que, en fait, c'est un film qui est rushé. Parce que tout simplement, à un moment donné, il faut patcher.
Par contre,
des
ils ont
à droite,
pas
à gauche,
oublié
quoi.
De mettre Bruce Wayne dans une putain de Mercedes. Et je suis désolé, Bruce Wayne ne conduit pas de Mercedes. C'est pas possible.
Moi, par contre, il y a un truc
merci Daniel.
Un des trucs. Mais par contre, il peut danser la Macarena dans Lego Batman, ça va.
Ça va.
Ah, là, ok, c'est pour qu'on sache un peu.
C'est où tu te situes
dans le Batmanverse.
Voilà, finalement, Alexandre. Je pense que on a parlé des promos, des bandes annonces diverses et variées, où comme maintenant c'est à peu près le cas sur n'importe quel blockbuster hollywoodien, tu es à peu près certain de voir des plans dans les premières bandes annonces que tu ne verras pas dans le produit fini, dans le film, la version salle. Là, c'est à un autre niveau, évidemment. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte. En passant dans la rue, en voyant la belle affiche, parce que pour le coup, elle est quand même pas si moche que ça. Je parle de l'affiche qui est très Alex Ross, avec un style vraiment très particulier. Finalement, ce genre de produit-là, de film-là, avec quelques plans qui te marquent un petit peu, genre des plans de Batman en contre-plongée sur les toits de Gotham City, hyper iconique, très chargé, qui n'ont aucun sens dans le film, mais qui pris séparément comme ça, comme un photogramme, un screenshot dans la bande-annonce, ont quand même de la gueule. Il faut être assez honnête pour le reconnaître. Finalement, je me dis que c'est un peu l'équivalent de ces couvertures de bouquins qui te font fantasmer. Le bouquin peut être nul à chier, mais au moins la couverture te donne un peu envie, ou de ces affiches de films quand tu passes devant les trucs. C'est une sorte de matière à fantasme, et on est arrivé à un stade où finalement ce genre de film-là, tu disais que c'était masochiste en début d'émission d'aller les voir. Finalement, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se rende compte qu'on sera jamais plus satisfait en les voyant en entier qu'en voyant la bande-annonce. Parce que de toute façon, ils ont littéralement mis tout le meilleur dedans. Oui. Et donc, on devrait se contenter de voir juste la promo.
Là, tu essayes de justifier comment ça se fait que ces films-là, ils font quand même 100 millions de dollars au week-end. Non, mais moi, le truc, c'est surtout qu'il y a le précédent qui peut être intéressant pour moi, mais malheureusement, je pense que c'est perdu d'avance. C'est que je ne comprends pas, j'ai jamais compris cette espèce de logique hollywoodienne où, par exemple, quand ils allaient chercher des réalisateurs pour faire des reshoots quand le premier réalisateur n'était pas là ou qu'il s'était fait virer, On va dire que c'était déjà c'était en sous-main, c'était rarement publicisé, et c'était rarement c'était la seconde équipe en fait. En gros, c'était rarement des cinéastes. Je mets les guillemets d'envergure parce que j'ai vraiment envie de mettre les guillemets avec Joss Whedon. Mais le truc c'est que là on en arrive à un stade. Il y a ce film où c'est clairement dit en fait que c'est Joss Whedon. Et bon après il y a les crédits, les mecs se sont battus avec les crédits et il a eu un crédit de scénariste. Et il y a le Star Wars sur Han Solo en fait où on vire littéralement les réals pour les remplacer par Ron Howard. Ron Howard, mais quand même un cinéaste d'envergure. C'est encore une fois, c'est pas
Willow bordel.
Non, puis c'est pas Tony Gilroy sur Rogue One. C'est pas un cinéaste scénariste, qui chapeautait la production quoi. Donc le truc c'est que ce qui je trouve complètement dingue en fait, c'est qu'on va se retrouver avec déjà on arrive quand même à un stade où ce genre de film là pour moi hein, et j'inclus même les trucs sur lesquels je peux prendre des plaisirs déviants comme les Transformers, on sait plus raconter d'histoire. On sait plus voilà, là l'idée c'est que en gros il fallait que ce film fasse 2 heures parce que les 2h30 de BVS ça allait pas. Il lui fallait un director's cut soi-disant pour se faire comprendre avec 3 heures
que j'aime beaucoup. Donc là, director's cut de BVS
pas vu, je m'inflige pas ça 2 fois.
Mais il est plus court que le paradoxalement il semble plus court
hein. Ouais, peut-être, mais bon, à mon avis il y a quand même les 2h30 que j'ai vu tu vois dedans, donc voilà, donc si c'est pour avoir une demi-heure de qualité, le truc c'est que donc il y a cette notion là et en fait on va se retrouver non seulement avec des films qui racontent plus rien parce que là ce film il fait 2 heures mais il raconte rien hein. ce qu'on a résumé au début c'est ça, mais en plus en fait on va se retrouver avec des hydres à 2 têtes ou 3 têtes en fait qui sont générés par des types qui sont quand même censés avoir une personnalité, c'est-à-dire pas être juste des yes man, au contraire tu vois, des mecs qui ont moi je fais du cinéma, enfin Ron Howard il fait du cinéma depuis 40 ans donc il a quand même peut-être son mot à dire sur ce qu'il reshoot quoi. Joss Whedon c'est pareil, il a une personnalité, elle transparaît dans ce film là et on va se retrouver donc avec des films qui sont des hydres à 2 têtes où il faudra se poser la question de qui a fait quoi, comment, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'on traverse encore enfin, c'est encore un pas de plus vers la j'allais pas dire l'uniformisation, mais le rejet littéral, en fait, de alors, les mots sont peut-être un peu forts, mais des auteurs de blockbusters, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, un rejet de, enfin, les Sam Raimi qui faisaient des Spider-Man à une époque, même s'ils ont pu se faire sabrer par la prod sur Spider-Man 3, ce genre de choses, enfin, à mon avis, ils auront plus le droit de citer si on continue à citer tous les gens, et si on continue à donner son pognon à ce genre de truc, quoi. Donc c'est là où c'est pour moi c'est effectivement ça peut être justifié parce qu'il y a Batman, mais bon quand ça fait le 5e film avec Batman depuis 5 ans, au bout d'un moment est-ce que t'as vraiment envie de voir Batman comme ça en plus, enfin t'en as pas assez soupé avec Batman v Superman pour revoir Ben Affleck dans ce rôle là
si. Il va faire culpabiliser ce connard.
Et en plus, alors il y a un autre truc, c'est parce qu'on parle, encore une fois, on parle de la moustache
d'Henri Cavill.
D'Henri Cavill, mais moi je veux bien qu'on parle du lifting de Ben Affleck aussi. Ouais, parce que alors là, t'as carrément des plans, mais t'as un plan, c'est Mila Jovovich le mec. Tu vois, d'un seul coup, en fait, il y a un plan où il s'assied sur son fauteuil, il est en train de parler avec Jeremy Irons, mais j'ai jamais vu un plan aussi photoshopé, dégueulasse de. Pour une star masculine en plus hein, parce qu'en général je fais référence à Mila Jovovich parce que dans Resident Evil 3 elle avait un contrat avec L'Oréal qui l'obligeait à avoir un teint de peau absolument formidable, donc du coup les mecs se sont sentis obligés de lui foutre du Ripolin partout sur la gueule et elle est juste elle ressemble à Photoshop quoi, tu vois. Et le truc c'est que là c'est un peu pareil, donc c'est complètement fou.
Il y a un vrai problème plus global même de la chromo quoi, c'est-à-dire la couleur elle varie, bon on l'a vu elle varie en fonction des trailers, mais la couleur du film final il y a vraiment une espèce de déballonnade complète de la couleur, et puis elle revient et puis elle repart, et en fait tu te dis que en fait c'est le filtre Snyder utilisé de base, et puis ensuite ils ont
caméras sont bloquées là-dessus.
Ils ont eu le mémo de Warner Bros qui a dit bon, plus de vannes ça on l'a, maintenant plus de lumière, plus de couleurs. Le seul problème c'est que leurs costumes ils sont vraiment adaptés à une couleur très Snyder en fait, c'est-à-dire que le costume de Batman et aussi surtout le costume de Flash ils sont adaptés à une chromo Snyder, c'est-à-dire dans le noir, on le voyait dans le trailer, dans les premiers trailers, ils se battent tout le temps de nuit. Là, ils se battent souvent dans des sous-sols. On sait pas trop. D'ailleurs, c'est un gros problème de ce film. C'est où ils sont, quoi. Où ils sont? Ils sont dans des sous-sols, mais ils ressemblent à des sous-sols de base nucléaire. Ensuite, ils sont dans une base nucléaire, mais qui ressemble dans les sous-sols de Gotham. Il y a aussi ce problème que Gotham, est juste à une borne de Metropolis, ce qui est vraiment dommage, parce que, du coup, il y a un vrai problème de où ils sont, ces gars. Et si tu veux bien réaliser un film d'action, il faut au moins te donner une sensation d'espace. Et ça,
ça c'est, c'est ça, ça s'est perdu, mais,
le... mais oui, la mer volante de Aquaman, enfin je veux dire, parfois il y a de l'eau, parfois il y a de l'eau, elle part, enfin on comprend pas comment il y a un vrai problème de, il y a un problème d'unité, quoi. C'est pas le monde d'ici tel qu'il fonctionne, quoi.
Ce problème d'unité dont tu parles, il n'est pas que c'est pas qu'une question de tonalité dont tu parlais, de colorimétrie, c'est aussi que, encore une fois, je veux dire, on parle d'un cinéma, enfin moi je n'aime pas le cinéma de Zack Snyder, c'est bête à manger du foin, ça pète plus haut que son cul, on dirait un ado de 15 ans qui découvre la philo, quoi. Donc le problème, si tu veux, c'est que j'aime, enfin ça me plaît pas, mais par contre en fait je ne peux pas ne pas lui reconnaître que le type est hyper chichiteux dans son style, qui pousse les potards à fond, et tout simplement le fait est qu'il n'a pas fini le film.
C'est le Michael Bay du super-héros.
Non mais voilà, mais tout simplement il n'a pas fini le film. C'est aussi ça le truc, c'est que donc ça se voit, quoi.
On va terminer là-dessus, je pense. C'est pas mal. Ouais, hein, ouais, c'est bien. Je crois qu'on a fait à peu près le tour quand même. Mais quand même, on va faire, comme d'habitude, une petite série de recommandations. On n'est pas obligé de rester dans l'univers super-héroïque, parce que je crois qu'on a... On a bien tartiné, mais on peut, si vous avez des idées, comme d'habitude, vous êtes totalement libre. Alexandre, tu souris, tu as l'air content de toi, tu as une reco de derrière les fagots.
Alors, j'ai peut-être une reco de derrière les fagots, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà, donné dans une autre
émission. Te connaissant, ce ne serait pas impossible.
C'est possible.
Tu as vu 3 films dans ta vie.
J'ai vu 7 films, excusez-moi.
Alors, c'est Willow.
Je vais recommander le meilleur film de Zack Snyder, haut la main, qui est Le Royaume de Gaoul. Oui. Un film d'animation avec des chouettes un peu nazis. Voilà, c'est tout.
Tu me l'as bien vendu, Stéphane.
Il y a une pétition en fait qui traîne en ce moment sur le net, parce qu'il faut impérativement que les gens voient le director's cut apparemment de Zack Snyder sur ce film là je sais pas si ce director's cut existe vraiment, puisque comme on vient de le dire, en fait il n'a pas fini le film. Et il y a les reshoots qui devaient se faire, à mon avis c'était probablement des reshoots qui étaient programmés de base. Du coup Marocco, pour essayer de rester dans ce truc là en fait, c'est le director's cut de Superman 2 qui existe en Blu-ray, qui est le Richard Donner's Cut, en fait, et qui reprend, en fait, parce que c'était un cas plus ou moins similaire, c'est-à-dire qu'en gros, Richard Donner s'est fait virer du film, lui s'est fait virer pour le coup de Superman 2 à l'époque, c'est Richard Lester qui a repris le film, qu'il a signé, en gros, c'est signé de son nom, voilà, et il a fallu attendre 25 ans pour voir un simili director's cut, parce qu'encore une fois, comme il manquait des scènes, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu, ils ont même repris des plans du premier film, enfin, etc., pour essayer de rendre le truc à peu près cohérent. Moi, j'aime pas trop le Superman de Richard Lester, j'aime pas beaucoup plus, en fait, le celui de Donner, mais par contre, c'est fascinant à regarder, en fait, quand tu veux comparer les deux. Donc, du coup, en fait, c'est un message d'espoir pour tous les gens qui attendent le director's cut de Justice League. Peut-être que dans 25 ans, quelqu'un le ressortira avec des plans de Batman v Superman dedans, avec ce genre de choses.
Des trucs faits dans le garage de Zack Snyder. Daniel?
Eh bien, je vais rester par contre dans le monde des super-héros. Okay. Alors, il y a un gros problème avec Snyder, on l'a vu, c'est que peut-être qu'il aime Batman, parce que quand même, il a quand même mis en valeur Batman dans Batman v Superman, mais par contre, il aime pas Superman.
Non.
Et tout le problème de ce film, c'est qu'ils essayent de faire fonctionner des gens autour de Batman et ça marche pas. Alors ils ont essayé les vannes et tout. Et il y a eu un antécédent qui fonctionnait bien dans le monde de l'animation, c'est Batman Brave and the Bold. C'est une série. Alors on en parle rarement parce que souvent on parle plutôt de la série de Bruce Timm. Mais Batman.
A raison.
Oui, mais qui a complètement et
qui a changé
un peu la manière de faire justement ces dessins animés. Et Batman Brave and Bold, qui s'appelle l'Alliance des Justiciers, je crois, en VF, met en scène Batman et avec chaque épisode un autre personnage du monde DC, et pas forcément les évidences, quoi. C'est pas Superman, c'est plutôt Plastic Man. Il y a un Aquaman, mais c'est un Aquaman délirant, c'est un Aquaman tartifiole qui a une espèce de gros mytho des océans. Il y a Blue Beetle. Enfin, vraiment, c'est un mélange de gros classiques, à Green Arrow et Trigan, qui est pas non plus un personnage évident, et en plus qui est un personnage de Jack Kirby. Et Brave and the Bold suit un peu visuellement le graphisme de Jack Kirby, qui est d'ailleurs s'est fait complètement pollué par Justice League, puisque Steppenwolf est un méchant des New Gods.
Il en parle un petit peu,
ils en ont fait
Side,
rien du tout, ils en parlent Darkseid, ils parlent des New Gods, mais vraiment Jack Kirby leur a offert le meilleur méchant de tous les temps, c'est-à-dire Darkseid. C'est vraiment ce qui manquait à DC à l'époque, dans les années 70, c'est un vrai méchant. Il leur a donné, et du coup maintenant ils essayent de puiser dedans de manière ils essaient de te vendre Justice League 2, en fait, de la manière dont ils le disent. C'est pour ça qu'on te vend Steppenwolf et pas Park Darkseid. Et du coup Batman Brave and Bold, lui, il puise là-dedans, mais ça la clé, je pense, pour réussir ce genre de film, c'est qu'il faut aussi aimer le matériau de base.
Oui.
Et là, on sent pas de l'amour. Et je pense que dans tous les acteurs, ils sont gênés d'être là. Peut-être le mec qui fait Flash, là, Ezra Miller, il a l'air d'être un peu plus heureux d'être là. Donc lui, il a
c'est son, le candidat du film.
Il a son bon point à la sortie de l'école.
N'oubliez pas la scène post générique,
ouais,
qui est encore plus navrante que le reste du film.
Ouais,
elle est Suicide Squad-esque.
Elle est vraiment Suicide Squad-esque. Ça, c'est vrai. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil et au public qui était avec nous ce soir. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement au public si vous voulez venir nous voir vous aussi. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.
Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.